Bonjour à toutes et à tous. Notre invité de ce jour se nomme Michel Gindre. Il va nous parler de sa profession, celle de pharmacien. En effet, il gère une pharmacie à Sion et une autre dans le canton de Genève. L'actuelle pénurie de certains médicaments est-elle en train de se résorber? Pour quelle raison a-t-il équipé l'une des pharmacies qu'il gère d'un robot qui délivre les médicaments? Est-il astreint à des nuits de garde téléphoniques? Ce sont là quelques-unes des questions que je lui ai posées. Voici donc cette interview qui a été réalisée au mois de décembre 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Michel Gindre, vous êtes pharmacien responsable. Est-ce que ça implique que du point de vue de la loi, du règlement, vous devez être présent en permanence dans votre commerce?
Non, pas en permanence, parce que ce serait un peu difficile, on est ouvert presque 60 heures par semaine. Mais on est responsable vis-à-vis de la loi, de tout ce qui se passe dans la pharmacie, et on doit être présent environ une trentaine d'heures quand même au minimum, et on peut être remplacé par d'autres pharmaciens diplômés, ou des diplômes suisses ou diplômes étrangers reconnus, et c'est mon cas, puisque j'ai deux pharmaciennes qui m'assistent dans mon travail.
En tant que pharmacien, comment avez-vous vécu la période où le Covid a été le plus virulent?
Alors, nos équipes ont été extrêmement mises sous pression parce qu'on a eu. Bon, déjà, on était les seuls commerces, entre guillemets, qui restaient ouverts, à part l'alimentation. On avait un véritable rôle social et de dispensation de médicaments, de contrôle pour pas que les gens fassent des réserves inutiles. On était extrêmement mis sous pression. On a à peu près, pendant les périodes, les pires périodes de fermeture, probablement on avait deux fois plus de monde qui fréquentait nos pharmacies. Donc c'était énormément de stress et de travail pour nos équipes, qu'on remercie encore régulièrement de tout ce qui a été fait de leur part et qui ne comptaient pas leurs heures, qui ne comptaient pas l'énergie qu'elles ont mis à disposition pour rendre service à la population vraiment.
J'ai une de mes connaissances qui est assistante en pharmacie et qui m'a dit que pendant cette période-là, il y avait un certain nombre de clients qui étaient, ou en tout cas quelques clients qui étaient presque agressifs parce qu'ils avaient peur en général de ce Covid. Est-ce que vous avez eu aussi dû faire face à ça?
Alors, pas dans la clientèle habituelle. Par contre, effectivement, comme on est dans nos pharmacies, on effectuait des vaccinations Covid, donc dans un deuxième temps. Et là, on a assisté effectivement à pas mal d'agressivité de la part des personnes qui venaient se faire vacciner, particulièrement de celles qui n'étaient pas particulièrement pro-vaccin et qui faisaient à contre-cœur pour des raisons évidentes qu'on connaît tous, qui étaient que pour sortir, pour aller au restaurant, pour aller n'importe où, il fallait une attestation d'avoir une vaccination. Donc ces personnes qui venaient se faire vacciner reportaient un peu leur colère sur nous, et c'était pas toujours très très agréable. Alors que finalement, nous on forçait personne, on essayait juste de rendre service si les personnes voulaient se faire vacciner.
À votre avis, le nombre de clients en quête de conseils ou d'écoute est en augmentation ou au contraire, il y a moins en moins de gens qui en ont besoin?
Non, je pense qu'il y a de plus en plus. Et puis, on sent que depuis quelques années, la pharmacie est redevenue, a repris un rôle, particulièrement depuis les années Covid, mais a repris un rôle un peu de conseiller dans le système de santé, en Suisse en général. Et les gens viennent très volontiers se confier, ou en tout cas poser des questions, peut-être plus pour de la bobologie que pour des problèmes graves, heureusement. Et peut-être qu'on a un rôle très important là-dedans aussi à développer à l'avenir de triage de problèmes médicaux. Une espèce de première intention, pas un médecin évidemment, mais en tant que représentant du monde de la médicale, de première intention.
Et puis, est-ce que les employés ont le temps d'écouter peut-être que parfois des gens qui se sentent très seuls se confient aussi sur certaines de leurs difficultés? Est-ce que parfois les employés ont le temps de discuter quelques minutes avec le client ou...
Alors après, c'est du bon sens. Nous, dans nos pharmacies, on ne met pas de limite. Jamais on a dicté, on a dit, voilà, vous ne passez pas plus que tant de minutes. Je sais que ça se fait dans certains groupes. Après, c'est du bon sens. Il faut voir aussi quelle est l'urgence, quelle est la demande de la personne. Si on sent qu'il y a une véritable détresse, Moi, j'ai aucun problème. On peut déléguer une personne pendant quelques heures, même s'il le fallait, si on peut aider. C'est rarement le cas. C'est quand même souvent des gens qui s'écoutent un petit peu trop, parfois, et puis qui ont besoin d'être rassurés. Alors, c'est important, mais ça ne nécessite peut-être pas 15 ou 20 minutes de notre temps, surtout que c'est des gens qui reviennent souvent tous les jours pour la même problématique.
J'imagine que ça arrive parfois que vous, pharmacien, vous trouvez qu'un traitement prescrit par un médecin n'est pas adéquat ou pas du tout adéquat. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Est-ce que vous en parlez au client? Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de même téléphoner à un médecin en disant, mais écoutez, là, il y a quelque chose qui ne joue pas?
Alors, déjà, notre rôle, c'est pas de poser un diagnostic, ça c'est la première chose. Donc, moi, je remets jamais en question le diagnostic qu'un médecin aurait pu poser. Par contre, effectivement, une fois qu'un diagnostic a été posé, il y a déjà la problématique des interactions médicamenteuses, que ce soit deux médicaments qui proviennent d'ordonnances du même médecin, ou alors, comme c'est souvent le cas, de médicaments qui proviennent de médecins différents. Donc, c'est normal qu'on intervienne, donc ne serait-ce que pour avertir les médecins, attention. Il y a une autre prescription, vous n'êtes peut-être pas au courant, qui pourrait par exemple provoquer une dépression respiratoire parce que si on mélange ces deux médicaments. Donc, déjà, si on a un rôle d'information, donc on les appelle pour les informer. Voilà, après, moi, dès le moment où il y a une prescription, on a une obligation aussi légale de la suivre. Mais on intervient régulièrement quand on estime par exemple qu'il y a un dosage qui n'est pas vraiment approprié ou justement qu'il y a un risque d'interaction. Donc là, on appelle, je pense, on a 10 appels par jour, on appelle les médecins. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans les mœurs des médecins aussi. Les médecins sont habitués maintenant à avoir des appels des pharmaciens. Quand j'ai commencé ma pratique il y a une trentaine d'années, on assistait à des médecins rois et qui ne supportaient pas tellement qu'on aille les déranger dans leurs prescriptions et dans leurs décisions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les médecins ont été formés dans les hôpitaux. Ils collaborent avec des pharmaciens également pour la prescription. Donc, ça passe en général très bien. On a même souvent des remerciements de leur part.
Michel Jean, depuis quelque temps, certains médicaments ne peuvent pas être obtenus pour des raisons de rupture de stock chez le fournisseur. Où en est-on? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que ça s'empire?
Ça s'empire. Ça s'empire parce que les médicaments qui étaient en rupture il y a quelques mois, on a dû transférer les patients qui recevaient ces médicaments sur de nouvelles molécules ou d'autres molécules. Ces nouvelles molécules commencent elles-mêmes à manquer et puis on se retrouve maintenant devoir trouver des troisièmes solutions pour nos patients et on jongle toute la journée entre ces médicaments qui sont plus disponibles ou au compte-gouttes, ce qui est presque pire parfois parce que quand on reçoit 5 boîtes par mois d'un médicament, on aurait de la demande pour une centaine de boîtes par mois, c'est très difficile pour nous de déterminer l'ordre de priorité à qui il faudrait l'attribuer. Mais voilà, c'est aussi notre rôle de devoir gérer ça et puis de voir qui en a le plus besoin.
Et puis la cause de ce problème, c'est qu'on n'a pas produit assez.
Alors, ça dépend les types de médicaments. Non, non, c'est parce qu'en fait, c'est un problème global au niveau mondial. C'est comme il y a eu suite la crise du Covid qui a ralenti pas mal l'économie avec l'Asie. Beaucoup de molécules sont produites en Asie. Il y a également la guerre en Ukraine qui a ralenti aussi pas mal de transferts de technologies, de matériaux. Et on assiste aujourd'hui à un manque de médicaments, parce qu'ils n'ont été pas suffisamment produits, mais parce qu'ils n'ont pas suffisamment de matières premières pour les produire. Donc ce n'est pas le fabricant qui est véritablement responsable, c'est parce qu'il n'arrive plus à obtenir lui-même les matières premières. Alors ça, c'est un des rôles. Après, il y a une autre raison, c'est des médicaments de type, plus des médicaments de type confort. Je pense entre autres à l'Ozempic, qui est un médicament qui est utilisé pour les diabétiques. C'est un nouveau médicament assez révolutionnaire, qui se prend une fois par semaine, mais il y a énormément d'utilisations secondaires qui se font avec des gens qui veulent perdre du poids simplement et qui arrivent à et qui utilisent ces médicaments pour une raison détournée. Du coup, au niveau mondial, hein, c'est assez connu. Du coup, ça a créé une demande accrue qui n'était pas prévue. Et puis, on a un manque d'Ozempic pour les vrais diabétiques. Donc là, on a un véritable rôle de choix de à qui on les distribue pour les quelques boîtes qu'on reçoit de façon hebdomadaire ou mensuelle.
Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir un client fâché parce qu'il n'a pas encore l'ordonnance du médecin, mais il voudrait un médicament, donc vous devez déterminer s'il ne l'a jamais pris chez vous, est-ce que vous devez le donner ou pas? Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de petit problème?
Ça arrive souvent, mais on a rarement des gens fâchés parce qu'on explique la situation. Il faut leur faire comprendre que c'est également pour leur sécurité s'ils viennent me demander une boîte d'un médicament pour la pression, mais ils ne connaissent pas le dosage et puis que moi j'ai aucun historique. C'est pas très approprié, je leur donne n'importe quoi. Après, si quelqu'un risque de faire une crise d'asthme, il n'est jamais venu chez moi et qu'il a besoin d'un spray anti-asthmatique, je ne vais pas lui refuser un spray anti-asthmatique non plus. Donc non, c'est rare que les gens soient fâchés.
Est-ce que vous êtes favorable à une loi qui permettrait de délivrer vous-même, en tant que pharmacien, certaines ordonnances?
Alors ça se fait déjà. Il y a déjà une nouvelle liste de médicaments que le pharmacien est autorisé à délivrer, donc des médicaments sur ordonnance. Je pense de nouveau à un spray anti-asthmatique. Ce n'est pas le cas de toute la panoplie des médicaments. On n'est pas habilité à donner des antibiotiques, à instaurer un traitement hypotenseur, des choses comme ça. Mais il y a toute une série de médicaments maintenant qu'on peut délivrer sur notre propre responsabilité, notre propre conseil.
On pourrait aller encore plus loin, à votre avis
Je pense que ce qui serait intéressant pour l'avenir, c'est que les pharmaciens aient une formation aussi dans le diagnostic et puis puissent aller plus loin effectivement dans ce sens.
Une autre question qui se pose, il y a un certain nombre d'années, vous deviez parfois ouvrir durant les jours fériés et le soir. En effet, une des pharmacies sédunoises était désignée à tour de rôle comme pharmacie de garde, ceci bien sûr afin de rendre service à la population. Et aujourd'hui, c'est une pharmacie située à la gare qui remplit ce rôle ces jours-là. Est-ce que pour vous, c'est plutôt regrettable parce que cela signifie une baisse de votre chiffre d'affaires ou au contraire, c'est un soulagement parce qu'on n'avait plus besoin de mobiliser votre personnel ces jours-là?
Alors, ce n'est pas tout à fait vrai qu'on ne fait plus de garde. En réalité, il y a toujours un service de garde de nuit. Donc, les gardes de 21h à 8h du matin, il y a toujours un tournus avec des pharmacies qui assurent la garde. En fait, lorsque vous parlez de la pharmacie de la gare de Sion, lorsqu'elle a ouvert il y a quelques années, elle nous a annoncé, de par les horaires auxquels elle avait le droit, puisqu'elle est sur un territoire fédéral, donc elle nous a annoncé qu'elle ouvrirait tous les soirs jusqu'à 21h, 7 jours sur 7. Dès le moment où il y avait cette pharmacie qui était ouverte 7 jours sur 7, jusqu'à 21h, s'est posé la question de l'utilité d'avoir deux pharmacies ouvertes pour une ville comme Sion le soir à 20h. Donc pour nous, c'était une évidence que, comme vous l'avez mentionné, c'était plus logique pour moins mobiliser notre personnel de ne reprendre les gardes que de nuit de 21h à 8h. Donc le tournus existe toujours parce que la pharmacie de la gare ferme à 21h. Elle n'est pas ouverte toute la nuit.
Donc ça veut dire que vous êtes de piquet avec votre téléphone ces nuits-là?
Tout à fait. Donc on a un déviateur, donc les gens appellent la pharmacie ou l'hôpital appelle la pharmacie. Et puis si c'est 22h, 23h, 2h du matin, ça sonne sur nos téléphones privés. Et à nous de faire un triage de ce qui est réellement une urgence, de ce qui ne l'est pas. Et puis de décider après en concertation avec le patient si on se déplace et si on vient à la pharmacie.
Vous recevez combien d'appels en moyenne lors d'une nuit de garde environ?
2-3.
Et puis je crois, sauf erreur, que l'hôpital n'a pas le droit de délivrer des médicaments. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou ça vous complique un petit peu de nouveau les choses?
Alors, ils peuvent dépanner, ils peuvent donner des comprimés de départ, ce qui est une bonne chose, moi, je trouve. Tout à fait, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. J'entends, si on va dans un système d'urgence, puis que la personne a besoin, puis qu'ils sont à disposition un antidouleur, on ne va pas forcer la personne à traverser la ville pour aller chercher une boîte d'anti-inflammatoires, alors qu'il lui suffirait de 2 comprimés pour la nuit. Et puis qu'elle se débrouille le lendemain pour effectivement aller trouver une pharmacie.
Vous avez depuis quelques années un robot, ce qui fait que, en résumé, les employés ne vont pas chercher le médicament, ils le commandent par informatique.
C'est un robot de stockage. Ça change pas grand-chose au niveau des commandes. C'est-à-dire que nous, ça fait des années qu'on a un système de stock qui est informatisé. Donc notre système informatique connaît exactement le nombre de boîtes d'un emballage donné qu'on a. Et chaque fois qu'il y a une vente, il y a un décompte et puis on met des alertes pour que le système puisse faire une nouvelle commande. Après, le robot, c'est uniquement pour du stockage. C'est un gain de place, c'est un gain de temps, c'est un gain de confort aussi avec les clients parce que ça veut dire qu'on ne quitte plus le client, on n'a plus cette image de la personne qui rentre dans une pharmacie avec une ordonnance et on voit le pharmacien ou l'assistante qui disparaît derrière des murs et puis qui revient 5 minutes après avec plein de médicaments. Donc en fait, dorénavant, on reste en permanence avec le client, ce qui permet de discuter aussi de différentes choses au niveau de sa santé, pendant que les médicaments nous sont apportés par le robot. Ce qui est très agréable et je trouve que ça vraiment c'est un plus indéniable pour la relation avec la clientèle. Et puis à part ça, il y a des avantages de gestion des dates de péremption. Donc il y a beaucoup d'avantages.
Et puis petit inconvénient peut-être, si le robot tombe en panne.
Alors ça nous est arrivé il y a quelques semaines. On arrive toujours à se débrouiller. C'est un peu plus compliqué, on perd un peu de temps. C'est-à-dire qu'on a dû mettre un collaborateur à l'intérieur du robot. Et puis on avait un ordinateur qui... Parce qu'on ne connaît pas en fait réellement les emplacements des médicaments dans le robot. Donc chaque fois qu'on avait besoin d'un médicament, on devait demander à l'ordinateur son emplacement précis à l'intérieur du robot et puis on avait un collaborateur avec une petite tige puis qui allait chercher ça dans le robot de façon millimétrée. Ça a duré 3-4 heures le temps qu'un dépanneur arrive et puis résolve le problème.
Est-ce que vous avez une ou deux anecdotes amusantes à nous raconter ?
Oui, peut-être une anecdote. Quand j'ai fini mon diplôme, c'était quand on en a deux, je crois, je suis revenu en Valais, et puis j'ai commencé par faire quelques remplacements. Et j'ai commencé par faire des remplacements en tant que pharmacien à Saviez. Et puis c'était assez drôle parce que j'étais presque un peu vexé parce que finalement les Saviezans arrivaient et préféraient avoir des conseils de l'apprenti de première année que du pharmacien diplômé pour la simple et bonne raison que je ne parlais pas du tout le patois saviezan. Alors que l'apprenti de première était de Saviez et puis elle ne parlait pas toi. Et finalement, on se rend compte que ce qui est le plus important, c'est la communication, peut-être presque plus que le diplôme. Donc la personne qui ne parlait pas toi pouvait communiquer bien mieux avec une apprenti de première qu'avec un jeune pharmacien diplômé qui n'avait aucune idée du patois saviezan.
Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre profession dans les 10 ans à venir, disons ? Est-ce que vous voyez un gros changement ? Particulier, est-ce que dans votre boule de cristal, vous voyez quelque chose de particulier ?
Je pense qu'on va vraiment se développer vers un monde du service et plus uniquement du distributeur de médicaments. On va être appelé à faire un peu plus de consultations, ce qui est une bonne chose. On sera plus uniquement le distributeur d'une ordonnance, simplement. Il y aura une véritable analyse, il y aura de la consultation. D'interaction, il y aura toute une série de choses comme ça qui sont en train de se mettre en place. On a vu avec les campagnes de vaccination qui sont des prestations qu'on a fournies, c'est plus une marge sur un médicament. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ce monde de la prestation.
C'est ainsi que se termine cette interview. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt.